On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Quand je pense qu'il y a des gens qui font leur salade sans huile d'olive, vous rendez compte? Moi, je préférerais encore l'huile d'olive sans salade. Alors voyons, vous n'allez pas mettre une pauvre salade qui vous a rien fait avec la première bouteille d'huile qui vous tombe sous la main. Alors je prends ma bouteille d'huile, je débouche.
Qu'est-ce que je fais? Moi, je pense le lard d'huile.
L'huile d'olive, c'est ma deuxième bouteille. L'huile d'olive, l'huile de fruits pour les salades et les crudités.
Mettez un olivier dans votre cuisine. Pour être tranquille, choisissez l'huile d'olive vierge. Elle est toujours naturelle.
Naturelle?
Naturelle.
Naturelle.
L'huile d'olive est toujours, toujours naturelle, elle.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Il n'y a pas encore d'olivier dans le studio 521 de la Maison de la Radio, mais nous, on a au moins des jus d'olive naturels. Oui, car l'huile d'olive est un jus de fruits, première information délivrée dans cette émission. Nouveaux profils aromatiques, méthodes de culture plus respectueuses, grands crus exceptionnels. Il se passe des choses en ce moment dans l'oléiculture et c'est ce qu'on va voir avec nos deux invités du jour, à commencer par Éric Verdier. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Oléicologue, c'est un néologisme que vous avez inventé sur mesure pour définir votre métier, métier que vous pratiquez depuis 20 ans au sein d'Olivier & Co, une très belle enseigne spécialisée dans les grands crus de différents terroirs de Méditerranée. Ça fait combien de ventes à peu près, Olivier & Co?
Disons qu'on achète à peu près 100 000 litres d'huile d'olive sur une quarantaine, 45 lots à peu près par an identifiés. Ça va de 300 litres jusqu'à 10, 15 000 litres, la plus grosse achat.
Et combien, combien d'enseignes?
Combien de magasins dans le monde?
Oui.
Oh, à peu près 75.
C'était
maintenant
ma question de départ. Ah, d'accord. Non, mais il n'y a aucun problème. Vous allez nous faire goûter de très jolies choses. Il y a d'ailleurs un pantone de la verdeur qui arbore ses couleurs sur le plateau dont on va déguster, c'est tout à fait impressionnant. Avec nous également, Juan Alberez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cuisinier d'origine colombienne, oui, installé en France.
Exactement.
Vous avez deux amours, la France et la Colombie. Chef de plusieurs restaurants à Paris, dont Yaya, évidemment. Je parle de Yaya parce que c'est une adresse méditerranéenne, mais il y a également Limon.
Exactement, Limon qui d'ailleurs est un produit qui se marie très très bien avec l'huile d'olive, donc on va faire honneur aujourd'hui.
Oui, on va voir ça, vous nous avez apporté de très belles choses. Et vous avez même, vous êtes payé le luxe de vous faire sur mesure également une cuvée d'huile d'olive avec vos amis de Calios. On avait déjà reçu Pierre-Julien Chantios, l'un des deux frères fondateurs, une enseigne d'épicerie fine grecque. Vous allez nous faire goûter cette huile d'olive et vous allez faire des choses tout à fait étonnantes avec. On n'en dit pas tellement plus, mais ça promet. Nos chroniqueurs du jour, notre expert vin Antoine Gerbel, bonjour.
Bonjour.
Au menu dans nos verres, Antoine.
Je vais amener un peu une bande-son sur l'olive. On va parler grillon, cigale et un peu de couleur, du blanc et du rosé.
Très bien, ça se passe au sud. Hein. Si on n'est pas trop bête, on a à peu près deviné. Notre toque verte et cordon bleu, c'est Arnaud Daguin, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Votre coup de lame, à quel saveur aujourd'hui?
Tant qu'à baigner dans l'huile, on va faire un coup de lard aujourd'hui.
Ah très bien, un coup de lard, parfait. Vos questions sur l'huile d'olive, vos commentaires à la maison sur notre mail on va déguster à radiofrance.com, Twitter avec le hashtag on va déguster, franceinter.fr, à la page on va déguster pour retrouver le podcast de l'émission et puis les recettes de Juan Alberez. Il a été sérieux cet élève, il nous a livré ses trois belles recettes sur notre site. Et puis un livre, on va déguster La France a gagné dans un instant, comme tous les dimanches avant Noël, avec une question qu'Arnaud Daguin va vous poser au cours de cette émission. Il suffira de nous répondre sur notre mail et le premier à nous fournir la bonne réponse avec son adresse postale se verra envoyer par la poste notre gros pavé de 2,3 kg dédicacé. La fine équipe dont on va déguster, Laurent Thomas, Gilles Gaillard, Nadia Chougui et Laure Grand Besançon, juste avant de verser dans l'huile d'olive une petite adresse de la semaine.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
J'étais à Tours il y a quelques jours pour participer à une rencontre dédicace autour de notre livre et je remercie d'ailleurs au passage les Tourangeaux et les Tourangelles pour leur accueil particulièrement chaleureux, sauf que je me serais presque cru à Nice, à Tours, parce que je suis allé m'attabler chez Réparat, une nouvelle adresse ensoleillée. Les amateurs comme moi de cuisine niçoise se souviennent peut-être de Réparat à Paris qui faisait il y a quelques années du côté de la rue Saint-Sabin dans le 11e arrondissement. Antoine Gerbel, non ? La meilleure salade niçoise de la capitale. Non, ça vous a pas...
Non, c'est mon, mon quartier voisin, mais...
Ben, je sais.
Ennemi, c'est 12e, pour
ça
que je 11e. Que...
Non, ça dit rien à personne, réparate rue Saint-Sabin, il y a quelques années. Non, mais attendez, une salade niçoise tout à fait extraordinaire. Sauf que le patron niçois, Jean-Louis Lacaze, et son épouse Marie-Hélène ont déménagé à Tours il y a quelques mois. Et ils font aujourd'hui cette belle cuisine niçoise, familiale, sincère, pleine de saveurs, et bien à Tours. Alors évidemment, on attendra le printemps pour manger cette fameuse salade niçoise, car la vraie salade niçoise, comme vous le savez sans doute, c'est une salade printanière, voire éventuellement estivale, puisqu'il y a des artichauts violets, des radis croquants, des fèvettes, des cébettes, un peu de roquette, des olives de Nice, évidemment, du thon, des anchois, de l'huile d'olive de Nice aussi, et surtout pas de vinaigre, et encore moins... d'œufs durs, d'aliments cuits...
Rien cuit, exactement. Tout doit être cru dans une salade niçoise.
Oui, absolument. Tout doit être cru. Non, il y a des œufs durs.
Il n'y a pas
de pommes de terre.
Le thon, apparemment, le thon était permis cuit. Il y a une certaine cuisson dans par le sel de l'olive. Mais sinon, quasiment tout est cru sur
absolument.
La salade niçoise.
Absolument. Et il n'y a pas de haricots verts, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de maïs. Enfin, on est bien d'accord. Voilà, une vraie salade niçoise. En revanche, on s'est payé dans cette adresse réparate une pisse saladière vraiment extra qui sortait du four avec une pâte moelleuse, des oignons bien compotés et caramélisés avec de l'anchois. C'était une super belle pisse saladière dans son genre. Et des petits farcis. Mais des petits farcis version hiver. Des légumes de saison, en l'occurrence petits navets, oignons, choux verts, rembourrés d'une belle farce à base de bœuf, de veau, de chair des légumes, oignons, ail, parmesan, un peu de basilic, un œuf pour lier le tout. Non, franchement, c'est extra. Et puis, ils font aussi une très belle daube de bœuf avec un vin rouge bio du Var du domaine Réjeanne. Et ils font leur belle daube avec une sauce vraiment bien réduite et bien nappante. C'était franchement très bien. 20-25 euros par personne. La clientèle tourangère, d'ailleurs, qui regardait un peu de travers cette adresse, commence à regarder la cuisine niçoise d'un autre œil.
C'est dans quel quartier
Et ça commence à mordre. C'est au centre. C'est au 47 rue du Grand Marché, pour être très précis, à côté des Halles. Réparate, ouvert mardi, mercredi et jeudi uniquement le soir, les vendredis et samedis, midi et soir. Faites-leur un petit coucou de la part d'On va déguster. On cause huile d'olive. Juste après, Azaman, des chanteurs Touareg. Dimaran, c'est un titre choisi par Djoubaka. We'll be right back. L'huile d'olive rime plutôt avec cuisine estivale et pourtant c'est aussi un produit de saison, Éric Verdier.
Oui, oui.
Pourquoi
c'est
donc
c'est un produit de toute l'année. Et puis, il est tellement de saison qu'on l'a récolté.
C'est
là,
ça
y est. On commence maintenant à être au milieu et presque à la fin, puisqu'on va finir justement avec les fameuses caillettiers niçoises à la fin du mois de décembre et au début janvier.
Oui. Vous êtes spécialiste des terroirs méditerranéens. Globalement, la récolte des olives sur tous ces terroirs, depuis l'Espagne jusqu'à la Grèce, en passant par le nord de l'Afrique, ça s'étale de camp à camp.
Oh, ça, moi, ça commence avec quasiment mes premières pressions faites pour moi dans certains vergers. Donc, c'est très tôt. J'attaque, allez, à la mi-octobre, 20 octobre. C'est en Sicile, sur la vallée d'Albellich.
D'accord. Et ça va jusqu'à janvier?
Oui, enfin, là, janvier, c'est mes derniers achats se font chez Dozolotran Agnons. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir de l'Agnons pas récolté trop tard, pas de la tanche trop poussée en noir, parce qu'elle perd énormément de saveurs et d'arômes. Donc, j'ai un moulin bien particulier qui fait une trituration pour nous.
Va justement se pencher sur la maturité des olives, qui est une des conditions essentielles, évidemment. Maturité à quel stade, c'est le secret. Mais en tout cas, c'est une des conditions de la qualité de l'huile d'olive. Pour plonger dans le vif, j'ai presque envie de dire pour plonger dans le vert du sujet, mais le vert au sens de la couleur, je vous propose un petit exercice. Une dégustation à l'aveugle, nous avons versé un élixir dans un petit gobelet transparent, il y en a un par personne. Et je vais demander évidemment à notre oléicologue qui a quand même l'habitude de déguster 200 huiles par an, combien ?
Ah non, je fais près de 3500 gobelets par an.
D'accord, je vous prenais pour un petit joueur.
non, mais c'est vrai que c'est déjà énorme, c'est là où je vois que je suis un peu fou, parce que c'est pas une dégustation toujours agréable, elle est relativement difficile, et on ne goûte pas toujours que les produits que nous allons goûter sur le plateau, là.
C'est ça, car il s'agit là aussi, en plus, de matières grasses, qui du coup laissent quand même une pellicule sur la langue, le palais, c'est pas facile. Alors, notre oléicologue met son palais sur « on », et nous livre ses impressions visuelles, olfactives, gustatives.
Bon, c'est une huile qui a été récoltée relativement précocement par rapport à sa variété. Oui, bon, c'est un style d'une espèce qui me paraît plutôt non seulement méditerranéenne, mais du berceau un peu de l'huile d'olive, je pense, de la Grèce.
Mais commencez par la couleur. Nos auditeurs n'ont pas l'image.
Alors,
à la maison.
Là, on a vraiment, même s'il y a un petit peu de turbidité, c'est-à-dire qu'elle est encore un peu trouble.
Turbidité.
C'est un petit peu trouble, tout simplement.
Très bien.
Si veux dire. Cette turbidité là n'est pas du tout un défaut. C'est au contraire, c'est rassurant, ça prouve qu'elle vient d'être pressée, d'être triturée, qu'elle n'a pas trop été, entre guillemets, ni bidouillée, ni stockée pendant 2 ans avant d'être vendue. Donc là, on est sur une huile millésimée, donc de la nouvelle récolte. Ce vert et cette nitescence, c'est-à-dire quand vous la regardez, il faut vraiment la regarder comme un vin, on voit bien que la lumière, et c'est très pratique ici, puisque la lumière vient du haut, donc elle n'absorbe pas la lumière, il y a de la réflexion, donc il y a de la nitescence, donc le corps gras n'est pas oxydé.
Ah oui, il peut rentrer dans le détail quand même, Éric Verdier, en effet.
Bah, oui, exceptionnel.
Petite leçon de dégustation.
Non, mais non, parce que souvent, c'est très dommage, on ne veut pas la regarder. Et même dans les normes aujourd'hui, on nous impose des verres bleus, ce qui est complètement stupide, dans le sens où, moi pour moi, il faut absolument en premier, avant de la sentir et de la goûter, il faut la regarder. Là, c'est une huile déjà où on sait qu'on va avoir un produit exceptionnel, parce que cette couleur-là annonce des olives exceptionnelles. Alors après, il peut y avoir des problèmes.
C'est rassurant, mais que de compliments. Bon, j'espère qu'on va lui trouver des défauts au nez, non ?
Alors,
non,
le nez n'a pas particulièrement de défaut, c'est-à-dire que moi je juge l'olive en premier. Après, il y a la main de l'homme. Là, les olives étaient très belles, et donc c'est l'ami que j'ai face à moi, chef,
qui a été
trituré.
Pourtant, on n'a pas triché. Hein.
C'est parce que c'est non, mais je crois savoir et j'ai compris maintenant d'où ça venait. Donc, il y a un travail qui a été quand même extrêmement soigné au niveau de l'olive. Malheureusement.
Ouf. Attention, Rouen.
Mais Rouen, nous en avons un petit peu, on s'est compris déjà, vous voyez. Non, c'est que, il est vrai qu'il n'y a pas encore une tradition, au niveau de la trituration, d'une très grande vigilance sur la température d'extraction. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que l'huile d'olive, on n'a qu'un coup. Donc, si on rate sa trituration, si on monte un petit peu trop en température, on va perdre un certain nombre de composés aromatiques.
D'accord. Et les composés aromatiques, aromatiquement justement, si vous la mettez en bouche, décrivez-nous rapidement son profil.
Vraiment, c'est herbe fraîchement coupée, c'est végétal, une petite note artichaut et ce petit fond un petit peu spécifique d'une espèce, donc je n'ai pas le droit de le dire, mais je pense que c'est celle-là
qui donne une petite.
Je pense que c'est une koroneki.
Et la koroneki. C'est une koroneki.
Il commence à être un peu fatigant.
On
va lui couper le micro.
Pas mal.
Non, mais c'est une koroneki, absolument. On est donc sur une huile d'olive. Koroneki, ça résonne un peu comme quelque chose de grec.
Une mode non
véritable. Exactement. On est en Grèce, Péloponnèse.
Oui.
C'est le nouveau village qu'on a choisi, une parcelle complètement bio. C'était une très belle année, d'ailleurs, c'est la plus belle année considérée depuis une vingtaine d'années en Grèce. C'est une année qui était assez sèche, qui a donné des olives très petites, mais avec un parfum qui reste assez exceptionnel. On a récolté dans cette parcelle d'une hectare à peu près 900 et quelques kilos, 950 à peu près, pour 120 litres d'huile. Donc
c'est ça.
On est à peu près à 10 à 12% de rendement d'huile par rapport à la récolte, ce qui n'est pas énorme dans l'huile d'olive, mais on a eu une qualité qui est assez exceptionnelle. C'est vrai qu'on parle de vert, c'est une huile qui est très vif, qui est sur les céleris, j'irais limite le céleri frais branche. C'est une huile qui est vive, qui est efficace, qui est poivrée, qui a, je trouve, de la vie. On met le nez dedans et on voyage.
Et de la tension aussi. Là, plus loin, tension, évidemment. Arnaud Daguin ?
Je trouve que c'est une huile qui nous remet en mémoire la phrase que vous avez dit tout à l'heure.
Oui.
C'est-à-dire que l'huile d'olive est un jus de fruits.
Oui, oui. Absolument.
Voilà. C'est d'une très grande fraîcheur.
C'est d'une très grande fraîcheur.
Il y a une espèce de charpente un peu tannique, comme ça, fraîche.
Donc c'est bien
ça,
2017.
Oui, moi j'étais.
Ça,
on
a parlé de millésime et tout mais on n'a pas précisé que voilà. C'est...
Je reviens en fait. Si vous voyez la bouteille, normalement c'est une très belle bouteille faite par les frères Kallios, très design et très jolie. Là, je l'ai ramenée dans une petite bouteille en plastique déjà pour pas mettre de la marque comme on faisait à l'aveugle. Et de deux, c'est qu'elle a été récoltée troisième semaine de novembre. J'étais là-bas.
Vous étiez là-bas pour la récolte.
Exactement. J'étais en train de peigner les arbres pour récolter. 3 heures après, elle a été pressée. On a fait ça très très rapidement pour garder toute cette fraîcheur.
Une huile d'olive donc grecque, on n'est pas très loin de Kalamata, dans le Péloponnèse, signé Juan Alberez. Il faut préciser que c'est les frères Kallios, évidemment.
Exactement.
Ces épiciers grecs de très grande qualité qui la commercialisent. On peut la trouver d'ailleurs sur Internet.
Ils la commercialisent, ils la produisent depuis 8 générations. C'est une histoire de famille. Donc.
La Grèce avait un peu l'idée ou cette tradition de produire des huiles plutôt sur la maturité, de couleur un peu jaune, avec éventuellement de temps en temps des arômes un peu tertiaires. C'était une question de maturité. C'était une volonté de votre part de se tourner vers l'astringence, la verdeur, le côté presque un peu picotant au fond de la gorge.
Ça, c'est une démarche que les frères Kallios ont démarré il y a quelques années. Ils cherchaient une huile d'olive, pas une huile d'olive commerciale, mais plus une huile d'olive qui soit accessible au chef, qui puisse accompagner une cuisine qui ait du caractère. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Moi, je suis tombé un peu amoureux de cette huile parce que moi, j'ai une cuisine qui est très parfumée, qui est tonique, qui est sur l'attention, qui est toujours en train... Je parle de qui taquine les papilles. Elle est toujours en train de chercher à taquiner la dégustation. Et je cherchais une huile d'olive qui puisse venir chercher, pas accompagner ma cuisine. À ce moment-là, j'ai trouvé ces huiles qui étaient très vertes, qui étaient très toniques, qui étaient très vifs, qui se marient très bien avec des piments, avec des agrumes, avec des herbes, avec une coriandre extrêmement aromatique.
Pas à la pratique, non?
Je pense qu'on va bientôt s'y mettre là,
parce
à la dégustation.
Vous avez énormément d'ingrédients, des agrumes, etc. On aimerait goûter quelque chose d'assez...
On
a compris que vous étiez sur la percussion, le rythme, une cuisine sur la vitalité, la vivacité. Et cette huile d'olive sert donc un peu, j'imagine, de condiment.
Exactement, c'est un condiment. Nous, en plus, le problème de chauffer une huile d'olive, c'est qu'on perd en aromatique, même si c'est une huile qui, dans son point de fumée, va très haut. Donc, ça reste quand même assez santé de cuisiner avec. Mais cette huile d'olive assez exceptionnelle, on a essayé de la garder vraiment que pour du cru, que pour des finitions, que pour une salade, des légumes, une belle salade niçoise, comme vous parliez tout à l'heure.
Que
absolument.
Du cru, c'est ça.
Exactement.
Pour tenir.
Pour du cru.
Oui. Alors, Antoine Gerbel, je rebondis sur une information intéressante ou une interrogation qu'il avait. C'est vrai qu'on parle de millésime, on parle aussi d'huile nouvelle, comme on parle d'ailleurs de vin nouveau, sauf que l'huile d'olive, plus elle est fraîchement pressée, et plus le délai est court entre son pressage et la dégustation, meilleure elle est finalement.
Ah ben c'est sûr, c'est un corps gras.
C'est sûr, c'est pas forcément évident pour tout le monde, Éric Verdier.
Eh bien, on va lever le doute, j'espère, ce matin, j'ai un maximum d'auditeurs. Non, c'est un produit extrêmement fragile, donc qu'il faut consommer le plus tôt possible, et évidemment, s'assurant que c'est de la dernière récolte. S'il n'y a pas de millésime mentionné sur la bouteille, cela veut dire que c'est un coupage d'au moins 2 ans, et souvent bien plus. Donc l'idéal que moi j'ai eu il y a 20 ans, c'était de dire, bon, c'est pas possible que des crus que l'on peut identifier des choses absolument magnifiques, comment se fait-il que ces produits-là ne soit donc pas identifiable précisément. Donc nous, sur nos étiquettes, on met absolument tout, de l'espèce, le nom du producteur, le moulin.
Absolument.
Donc et c'est essentiel pour se garantir une huile, je dirais, nouvelle génération.
On est sur des huiles d'olive fraîches. Est-ce à dire que, contrairement au vin, l'huile d'olive ne vieillit pas, ne se bonifie pas?
Absolument pas, non. Elle vieillit relativement rapidement, entre 9 et 18 mois. Donc c'est pour ça qu'il faut les acheter sur plutôt principalement des régions où en plus il y a beaucoup de polyphénols, donc qui permettent et qui structurent le vieillissement de l'huile assez longtemps pour conserver, je dirais, une fraîcheur organoleptique pendant 12 mois.
Éric Verdier, quels sont les symptômes du vieillissement dans l'huile d'olive? Les arômes rances?
Voilà, le rancissement, quand on commence à perdre en nez, c'est-à-dire que ça s'affaiblit énormément, et qu'on tourne un petit peu noix de cajou, et après même, des fois un peu plus méphitique, un côté transpiration, sueur, voire des acides aminés, c'est-à-dire, je sais pas très agréable, mais un petit peu mouche écrasée.
Ça fait envie. L'huile d'olive passe au vert, c'est une tendance aromatique très claire, à la fois chromatique mais également gustative, c'est-à-dire que cette verdeur, elle se voit à l'œil, mais elle se sent évidemment au palais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une caricature? Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas...
Une sorte de diktat, comme dans le vin.
Oui, voilà, une sorte de diktat. Mais exactement, c'est-à-dire que dans le vin, on cherche davantage l'attention, l'acidité, plus que la maturité du fruit. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ce même diktat dans l'huile d'olive, je me fais l'avocat du diable? Autrement dit, est-ce qu'on a le droit d'aimer aussi des fruités noirs, des fruits plus matures?
J'espère bien.
Éric Verdier n'a pas cet avis, je crois.
Non, c'est pas ça. C'est que il n'y a pas 36 huiles. Il y a la bonne et la mauvaise.
D'accord.
Elle peut être exceptionnelle en étant agnon si elle est récoltée correctement avec ses propriétés. La tange doit être récoltée noire. Il faut la récolter noire. La cailletée niçoise, il faut la récolter noire. Ou rouge tournante. Moi, je l'aime bien vers le 20-25 décembre parce qu'elle est plus aromatique.
D'accord.
Il y a des espèces en Toscane comme la Lecchino et la Frantoio doivent être récoltées vertes.
Mm-hmm.
La picoile en Espagne, en Andalousie, avant était récoltée noire, on s'est aperçu qu'elle donnait des huiles plates qui s'achetaient 3 euros, 4 euros le litre. Aujourd'hui, on fait de la picoile, je vous l'ai amené à Finca La Torre,
on
fait
où,
des huiles, ça c'est une Andalouse de Raen.
D'accord.
Qui récolte en vert, bon c'est le Grand Prix Mario Sonia,
elle est vert fluo.
Là c'est... oui mais... C'est la picoile doit être récoltée comme ça. Elle doit pas être récoltée en noir.
Il se passe quoi si elle est récoltée en noir?
Si elle est récoltée en noir, ça fait de l'huile pour la grande distribution. Et quand elle est récoltée comme ça, elle est prix Mario Solina, c'est-à-dire le prix le plus élevé qui existe en matière d'huile d'olive.
Et quid du rendement? C'est-à-dire une huile d'olive, une olive qui est pressée verte, c'est moins de jus.
Et voilà. Donc il faut surtout la parler de réalité économique. Et je ne jette pas la pierre à qui que ce soit. Il faut bien comprendre que quand vous pressez aujourd'hui l'Espagne, qui est le premier avec 500 millions d'oliviers, donc un tiers des oliviers plantés dans le monde sont en Espagne.
Oui.
Leur marché principal est le marché de la grande distribution, d'alimenter entre guillemets le marché de base. À côté de ça, vous avez des gens qui font, eux, qui essayent de faire des huiles de cru identifiées de véritables grands crus, de purs jus de fruits. C'est ça. Là, eux vont faire 8 à 9 kilos pour faire un litre d'huile quand l'industriel par aspersion va faire, si vous voulez, un litre d'huile avec 4 kilos d'olive. On n'aura pas le même produit.
Donc je comprends qu'on pousse la maturité du fruit
pour
faire
le rendement.
Plus
tout simplement
de jus et d'huile d'olive, on a bien compris. On va passer à un autre liquide avec vous, Antoine Gerbel, pendant que Juan Albalès nous dresse ses très belles assiettes. Et on va voir d'ailleurs si ça matche bien, enfin on va éviter le mot matcher, on va voir si ça s'accorde bien, la cuisine de Juan Albalès et les surprises liquides d'Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Mon cher Antoine, à vous de jouer.
Alors, ce discours sur l'huile d'olive me ravit parce que j'ai l'impression d'entendre tous mes amis vignerons du pourtour méditerranéen qui font leur révolution aussi et qui s'échappent de ce côté lourd, pesant, on va dire alcoolisé des vins méditerranéens qu'on a connus, on va dire, post-années 60-70 et qui aujourd'hui vont chercher beaucoup plus de finesse et d'élégance. Alors j'ai joué sur deux registres avec notre huile d'olive, une très classique et simplement pour un peu titiller les auditeurs. Vous buvez du rosé tout l'été,
oui.
Vous mettez de l'huile d'olive dans votre cuisine et bien au-delà du nord de la Loire. Vous adorez aujourd'hui ces deux produits typiquement méditerranéens, mais comme par hasard, vous continuez l'huile d'olive au mois de décembre, au mois de janvier, février, et vous arrêtez le rosé au mois de septembre.
Mais c'est vrai, il y a une affaire psychologique dans cette histoire.
Voilà, mais pourquoi ne pas prolonger ce côté vacances? Et je ne vais surtout pas défendre le rosé de comptoir, le rosé de grande surface aujourd'hui qui inonde malheureusement le marché,
oui.
Qui n'a aucun intérêt, qui aujourd'hui un pis-aller pour l'ancien petit vin blanc. Et là, je vais vous parler la grande terre du rosé. Pour moi, c'est Bandol. Bandol a un cépage extraordinaire qui s'appelle le Mourvèdre. Ce Mourvèdre qui est identitaire à cette région autour de Toulon. Et on en fait des rouges, c'est vrai, traditionnellement. Malheureusement, les rouges, ce sont des rouges d'hiver. Donc, quand toute la vague touristique débarque sur la côte, elle n'a pas envie de rouge, je le comprends. Et donc, ils ont poussé vers les rosés. Mais les rosés, voilà, on a la Syrah, du Grenache pour faire du rosé un peu partout. Mais du Mourvèdre, il n'y en a pas beaucoup pour donner cette teinte. Alors, je vous ai amené un rosé. Alors, il y a plein d'adresses bien connues. Il y a le domaine Haute, il y a les Tempiers, il y en a bien d'autres. Et là, j'ai trouvé un jeune domaine. Ça s'appelle le Château Canadel. Château Canadel. Alors on est au Castelève, donc on est sur les hauteurs. Hein, l'appellation Bandol commence presque sur les plages de Youle et remonte progressivement par Restanque. Et là on est plutôt dans un état frais du Mourvèdre, donc assez difficile pour aller chercher sa maturité. Le rouge on le récolte généralement plutôt début octobre. Et là ce sont deux jeunes vignerons qui ont repris un domaine de le fils est un agronome et un œnologue, la fille aussi plutôt étude, on va dire dans le Nord, il s'est spécialisé plutôt dans les betteraves et dans le blé, et ils se sont pris de passion pour ce rosé, et ils amenaient leurs raisins à la grande famille Haute, donc qui les choyait parce que des apporteurs de raisins de qualité, il y en a pas beaucoup en Provence. Et puis ils ont décidé de voler de leur propre sel. Donc ils ont dégagé en 2014 leur première bouteille. Et là, je vous amène à 2016. Je le trouve évident, simple. Tout ce que je demande à un rosé qui doit pas prendre trop la tête, on va dire, et qui a ses notes très légèrement améliques. Faut que c'est toujours un tout petit peu amélique le rosé.
Amélique.
Un tout petit peu lacté, mais avec du fruit tout de suite derrière. Et là, moi, je sens la pêche. Je sens une pêche assez, pas la pêche Hollywood, hein, la pêche vraiment nature, un peu de vigne, qu'on croque. Et on a des très, très légers tanins. Et il faut des légers tanins pour aller sur l'huile d'olive, parce qu'on revient à notre cœur de sujet. Il faut aller chercher des vins de structure. Voilà. C'est la famille. On est sur donc le Castelet Canada. Oui. Ça coûte 16 €, ce qui est un petit peu cher pour un rosé, mais c'est le prix moyen de ces rosés en ce moment sur la côte. Laure et Vianney Benoît.
Très bien. Donc ça, c'est le Château Canadel avec leur rosé. Voilà un jeune domaine. Un petit blanc de Méditerranée, rapidement.
Un petit blanc de Méditerranée, voilà, je vous ai amené un petit chouchou, on est dans le Rhône, ça s'appelle, et ça sonne bien, ça s'appelle les Grillons.
Ah, ça voilà. Y est, ça me dit quelque chose, Nicolas Renaud,
on est voilà, dans le Gard. Je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission, sur son rouge, on est dans le Gard, c'est un garçon qui a 14 hectares, c'est un ancien prof, il a quitté...
Prof d'histoire géo,
il a quitté l'éducation nationale, il le dit en mettant pour la première fois célèbre sur un vin d'Eric Pfefferling, le fameux auteur de L'Anglore.
Et comme on comprend,
Ce vin donne des vocations. Et ça, son Grillon blanc 2016, c'est un trio Grenache, Bourboulin, Clairette. Et là, encore une fois, c'est très intéressant le parallèle avec l'olive, parce qu'on est dans ces cépages typiquement méditerranéens. Alors voilà, gardez en mémoire.
Oui, mais il y a de la matière quand même.
On adore le chardonnay, on adore le sauvignon, on adore le riesling, mais on ne sert pas ces cépages-là sur l'huile d'olive. On va chercher le Grenache, le Bourboulin, le Vermentino, dit Rolle en Provence.
Oui.
On va chercher toutes ces vieilles clairettes qui donnent aujourd'hui vraiment du relief par leur puissance minérale et alcoolisée, c'est là où l'huile d'olive se sent vraiment à l'aise.
Est-ce qu'il est d'accord, Eric Verdier ?
Oui, le rosé est remarquable, oui. Et 16 €, ce n'est pas cher quand c'est remarquable. C'est toujours trop cher quand c'est pas bon.
Oui.
Donc, il faut vraiment que les gens n'hésitent pas. Et même à Noël, je les engage à mettre ça aussi, même sur un poisson benoîtement grillé. Ça va très, très bien fonctionner.
Et pourquoi benoîtement ?
Parce que ça veut dire très simplement, parce qu'à un moment, j'ai les choses pures.
Étonnez-moi.
Et ce Mourvèdre est très très beau.
Nicolas Renaud, Claude Dugrillon, fait partie des chouchous dont vous faites l'apologie dans Soif d'aujourd'hui, nouvelle édition. On en dit un petit mot, vous l'avez signé, Antoine Gerbel, avec Sylvie Augereau. C'est la compile des vins au naturel. 250 vignerons, 320, 100% raisin chez Tana Édition. C'est voilà, une belle vision des vins qu'on aime.
On est heureux, c'était un très beau succès l'an dernier. Donc on a réactualisé intégralement avec Sylvie cet ouvrage, on a regoûté toutes les cuvées des domaines qui est déjà présent. On en a fait rentrer une trentaine, avec surtout une priorité à des gens peu connus qu'on ne voit pas ailleurs et qu'on, bien évidemment, cette ligne de fonctionner avec des vignes parfaitement entretenues, bio, bien évidemment, et cette tendance nature à aller chercher au plus près le goût du raisin, comme aujourd'hui, on est en train de parler des vraies huiles d'olive.
Soif d'aujourd'hui, et on a soif aujourd'hui sur le plateau dont on va déguster. Merci beaucoup. On a également soif d'huile d'olive. Dans un instant, on va se retrouver avec nos invités. Qu'est-ce qu'on déguste pendant la pause musicale? Un des trois plats que vous nous avez préparés, on va les détailler dans un instant. Juan Albales.
Le poulpe qui a mijoté tout doucement.
C'est Daguet qui... celui-ci, s'il vous plaît, c'est il a déjà englouti l'assiette.
C'est le poulpe qui a été cuit dans un bouillon très rapidement, un bouillon aromatique. On accompagne le tout avec quelques oignons rouges qui sont marinés dans un tout petit peu de vinaigre. Ça va venir apporter un peu l'acidité. Quelques mandarines mi-camp dont on mange la peau.
Et mandarines mi-camp, là, vous évoquez une variété japonaise.
C'est d'origine japonaise. Aujourd'hui, c'est cultivé dans le sud de la France, à Heuss Village, par Monsieur Bachez, la maison Bachez, à Eouz. On mange la peau, le tout bien, bien relevé par une huile d'olive bien verte de la maison Callios.
Parfait. Et tout cela saupoudré d'un peu de Charlotte Gainsbourg. 11h38 à l'horloge de France Inter, nous sommes en direct avec Eric Verdier, oléicologue pour l'enseigne Olivier & Co. Pas mal de points de vente dans toute la France et même à l'étranger. Juan Albales, colombien d'origine, français de cœur, amoureux de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive coule à flot sur le plateau dont on va déguster et coule notamment sur les très belles préparations que nous avons sous les yeux. On commence donc avec ce trio poulpe, quinoa, mikan. Où votre huile d'olive sur la verdeur et l'ardence sert de condiment?
Exactement. On a besoin.
Comment on s'y prend ?
On a besoin d'une huile d'olive qui est ce côté vert, ce côté puissant,
oui.
Qui puisse accompagner ce plat où il y a notamment des parfums qui sont assez présents en bouche. On a le poulpe qui est un produit qui a énormément de goût. Le mican avec son acidité, son sucré, son écorce et tout son zeste qui a beaucoup de parfums. La coriandre qui est une très puissante. Donc on a besoin d'une huile d'olive
coriandre
qui
fraîche,
accompagne.
Hein,
exactement. On croque dans la coriandre. On est dans l'explosion au palais direct. Et on a besoin d'une huile d'olive qui puisse accompagner main dans la main ce plat qui a beaucoup de caractère, qui est assez, qui a beaucoup d'acidité, qui a beaucoup de puissance. On a besoin d'une huile d'olive puissante qui accompagne.
J'anticipe les plaintes de nos auditeurs. Mican, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Par quel agrume plus simple, éventuellement une clémentine de Corse ?
Une clémentine corse, on peut utiliser, bien laver et utiliser la peau, car cette amertume qu'on retrouve dans les agrumes se marie très bien avec l'huile d'olive.
Parfait. Éric Verdier, qu'est-ce que vous avez dégusté ?
Ah bah moi j'ai eu le droit au maquereau qui est absolument superbe.
Hein, il a fini l'assiette ?
Oui, presque.
Non mais c'est ce qui est intéressant, c'est que là on voit...
Maquereau comment ? Mariné ?
Oui, on a fait une cuisson légèrement marinée dans un vinaigre et vin blanc, très classique, autour de la nette.
Un peu à la française,
vinaigre et vin blanc. 100% ouais. Français comme technique, mais travaillé avec les couleurs d'un coucher de soleil en Colombie. Quoi.
Et l'huile d'olive aussi, là, sert de condimentation. L'huile d'olive, c'est la cerise sur le gâteau.
Exactement, l'huile d'olive va venir essayer de relever ce plat. On a un peu de main de Bouddha et un peu d'agrumes.
Main de Bouddha,
donc citron. C'est un cèdre à la base,
oui, c'est ça.
Qui s'est transformé d'origine d'Inde. Aujourd'hui, on le trouve également à Uz. Et un citron jaune en bio, ça fera l'affaire.
Là, vous parlez d'un couple qu'on connaît bien, les Bachas, évidemment, près de Perpignan.
Exact.
Bon, et d'ailleurs, vous êtes complètement citrusophile.
Ouais, je me suis citroquifié, je crois. Oui. Parce que
votre dernière enseigne est spécialisée dans la...
À l'hôtel Marignan, qui s'appelle Limone, tout autour des agrumes, en collaboration avec la famille Bachas.
Limone et pas Lemon.
Exact.
Limone, c'est... L'espagnol.
El citron.
Non, limone. Éric Verdier, vous aimez, hein?
Ah oui, ça, c'est super. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est quand même l'huile d'olive à ce niveau de qualité est déjà un condiment. C'est-à-dire qu'il écore gras, mais en même temps, il parfume. Et il fixe aussi l'intégralité des plats, enfin, des denrées qui vont être utilisées dans la composition.
Très bien. C'est
superbe.
Il y a un truc dont on ne parle pas là, depuis le début, et qui est une fonction de l'huile d'olive, qui n'est pas seulement dans ses qualités, mais qui est le fait qu'elle relie tout ça. C'est vraiment...
C'est le trait d'union.
Oui. Et pour moi, c'est sa fonction première. Après, si en plus elle est à la hauteur au niveau aromatique, ça très bien, c'est mieux. Mais son boulot, là, en fait, c'est, outre de nous nourrir, c'est de mettre tout ce petit monde d'accord.
Voilà. Je pensais que vous alliez parler de cette fonction qui consistait à prendre une petite cuillère à soupe d'huile d'olive avant les agapes un peu arrosées, comme ça se pratique dans la famille de notre réalisatrice Laurent Thomas, par exemple. C'est une légende ou c'est bien de faire ça pour tapisser l'estomac, une cuillerée d'huile d'olive avant le réveillon ?
C'est bien.
C'est très bien parce que l'huile d'olive, dans sa composition, qui est principalement de l'acide oléique, a la propriété d'empêcher les reflux gastriques.
Ah.
Donc tout simplement de baisser le taux d'acidité gastrique, donc de l'acide chlorhydrique que nous avons dans la poche estomacale.
Très bien, eh bien écoutez, on va s'y mettre alors. Voilà. Arnaud Daguin, quelques réactions, ça se bouscule sur notre mail.
Oui, c'est assez... Il y a une question technique qui s'adresse sans doute à M. Verdier qui va répondre. Est-ce que les basses températures nuisent à ce magnifique produit ?
Là, je pense que... La question est vague. Basse température à la trituration ou basse température si on veut la cuire ?
Non, je pense pour la conserver.
Notre auditeur parle du stockage.
Ah oui, non. C'est bien d'essayer de stocker à moins de 18 degrés quand la bouteille est ouverte. Pas de chaleur, pas de lumière.
D'accord.
Pas de chaleur, pas de lumière, réponse. On nous dit aussi que c'est très bien pour remplacer le beurre dans quelques pâtes brisées, notamment pour des recettes salées, et je dis ça très bien. On nous dit aussi que presser, pression à froid, c'est peut-être pas exactement ce qu'il faudrait dire. On nous dit ça.
Ça n'a plus cours aujourd'hui, de toutes les façons.
Oui, mais ça, c'est symbolique.
Non, mais c'est quand même une question sémantique, puisque tout le monde parle de pression et de pression à froid, et donc on parle d'extraction, apparemment, c'est ça.
Absolument.
Quand il y a 20 ans, on a
ça
commencé à parler
d'une précision, monsieur Verdier.
Absolument. Quand on a parlé d'huile d'olive il y a 20 ans, que les huiles d'olive connaissaient un sursaut qualitatif, le critère de qualité absolue, il fallait trouver sur l'étiquette première pression à froid. Ça n'a plus lieu d'être.
Oui, c'est-à-dire que ça n'a plus de sens aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est contrôlé, parce que les moyens techniques le permettent, c'est les taux d'acidité, l'indice de peroxyde, des choses qui sont bien rébarbatives pour nos auditeurs. Non, il est évident que ce que l'on voulait absolument préserver, c'est qu'on a interdiction, logiquement, de chauffer l'huile au-delà de 27 degrés. Parce que À partir de 27-28 degrés, au moment de la trituration, au moment où on broie les olives, on perd 30 à 40% des composés aromatiques complexes.
D'accord. Voilà.
Et donc c'est une façon de garantir d'un côté l'acidité, donc la pureté et la fraîcheur du produit, et de l'autre côté aussi qualitativement, aromatiquement.
Je prolonge cette question par une question que se pose pas mal de nos auditeurs. Que faut-il penser des huiles d'olive vendues en grande distribution ? Sans être trop snob, évidemment, parce que on peut quand même considérer, on l'a pas dit, que ces cuvées que vous nous avez apportées ont un certain prix. C'est un travail artisanal exceptionnel, ça coûte cher, je connais pas les prix exactement, mais beaucoup d'entre nous, y compris moi, on achète une huile d'olive pour notamment la cuisine, les cuissons.
Non, mais bien entendu.
En grande surface.
Chez nous, non, mais ça, c'est tout à fait dommage. Nous avons des huiles chez nous qui sont remarquables et à petit prix. Non, ce que je pense,
c'est quoi un petit prix?
Là, c'est 15 à 16 euros un bidon de 750 ml, mais entendons-nous avec la garantie. Oui, mais vous en mettez une petite quantité. Elle est garantie quand même millésimée. Je vous amène, vous pouvez aller sur Google Maps, nos clients peuvent aller voir les oliviers de l'huile qu'on leur vend. Donc
oui,
c'est
mais
quand
ça
même
reste un coût important.
C'est vrai, mais on en utilise peu. Regardez, il a mis très peu d'huile dans toutes ses préparations.
Alors là, on parle d'une huile d'olive pour l'assaisonnement d'une salade.
Où on achète un corps gras, où on achète de l'huile d'olive. Si on achète de l'huile d'olive, il faut qu'on l'achète véritablement fraîche.
Aucune huile d'olive de grande surface n'est à sauver.
Je ne dis pas ça, c'est que si vous êtes en train de me dire, et si je vous dis taillefer, si je dis la vraie croix de Gué, si je dis l'évangile, c'est trois pommerolles. L'évangile est meilleur que la vraie croix de Gué, et l'évangile est quand même moins bon que pétrus ou trotanois. Donc, ce que je veux dire, il ne faut pas. C'est, tout ça, c'est des pommerolles, mais il y a un moment, il y a un pétrus, et il y a un château, la cabane, tout en bas. Mais la cabane est bon, mais c'est pas du pétrus.
Moi, j'étais déçu par le dernier pétrus que j'ai bu.
Oui, non, mais. Parce que vous êtes devenu très élitiste, oui, François Régis. Non, mais il y a des pétrus décevants, mais ce que je veux dire, il y a des niveaux de qualité de terroir et on paye aussi un niveau de qualité de terroir.
Par rapport au prix, je voudrais juste signaler, c'est que c'est vrai que c'est les Italiens qui ont quand même lancé la guerre à vos prix. Ils nous ont fait des huiles très très chères, surtout les Toscans. Mais je trouve que l'huile est chère, mais je trouve que l'huile en grande distribution, moyenne, est chère. Je trouve que les prix ont énormément monté dans l'huile d'olive. On ne va pas citer les grandes marques, mais ils en ont profité et je trouve pas que.
Du voyage,
trouve pas que la qualité est vraiment montée sous cet angle-là. Et
en fait, la vraie question posée là, c'est est-ce qu'il y a de la bonne huile d'olive pas chère? C'est ça la vraie question. Et est-ce qu'on peut penser que cette huile d'olive, si elle doit être de qualité, donc un petit peu onéreuse, est-ce qu'on ne la garderait pas pour certains usages?
Oui.
Et on se servirait l'argamano de bonne huile de colza qu'on pourrait assaisonner avec un peu d'huile d'olive au travers.
C'est Daguinou qui a la solution.
Ou un cinquième de la bouteille pour les usages l'argamano. Et puis, quand on a envie d'être pointu, on garde le petit flacon et on est économe.
Très bien.
On fait de l'économie circulaire.
C'est ce que font nos clients. On voit le changement de consommation et de matière avec nos clients fidèles depuis 20 ans.
On réconcilie tout le monde autour du plateau dont on va déguster, à moins que vous n'ayez pas la réponse à la question que va vous poser dans un instant Arnaud Daguin. Pour gagner, je vous le rappelle, un exemplaire dédicacé dont va déguster la France. Notre nouvelle encyclopédie aux éditions de Radio France et Marabout. Arnaud vous pose une question dans un instant. Pour participer, il suffit de nous envoyer un mail avec votre réponse et votre adresse postale, évidemment, à onvadeguster@radiofrance.com. Petite question dont on peut raisonnablement dire qu'elle est reliée au sujet du jour. C'est pour ça qu'Éric Verdier et Juan Albalès n'ont pas le droit à l'erreur. Par contre, vous évitez de donner la réponse si c'est possible. On vous la demandera dans 5 minutes. À vous, Arnaud.
Alors la question c'est, je suis une douceur d'origine méridionale où le sucre se marie à l'huile d'olive. Sans moi, il ne pourrait être très à table des desserts. On me déguste parfois trempé dans du vin cuit à l'occasion du réveillon de Noël qu'on appelle gros souper en Provence.
Alors Éric Verdier, il lève carrément les yeux au ciel, genre trop fastoche. Non, non mais vous l'avez ?
Oui, je pense.
Bon,
oui.
Une douceur d'origine méridionale où le sucre se marie à l'huile d'olive, il ne pourrait être très sans elle à la table du réveillon provençal. Voilà. Alors, la réponse dans un instant, juste le temps d'un petit coup de lame de notre ami Arnaud Daguin.
Sur France Inter, on va déguster.
Cuisinière, cuisinier, lipophile, lipophobe. Voyez, braves gens, la complainte du gras, accusé de charge pondérale, mise en examen pour obturation de vaisseau, vilipendé par des meutes de diététiciennes maigres. Haro sur le gras, arrêt sur les gros. Bon, c'est quoi le gras en gros? Le gras, du latin crassus, qui a donné crasseux, était bien mal parti. Pourtant, il devint vite populaire. Oui, le gras eut un état de grâce. Les bouillons, les foies, les choux, les veaux, même les mardis étaient gras. Les jolies femmes étaient en bon point, les blagues étaient grasses et les matinées aussi. En gros, le gras, c'était bien. En ce temps-là, les cochons couraient nus dans les champs et les bois, ils se gavaient de bons glands et de bonnes châtaignes qui font le bon lard et qui font le sein doux. Les maquereaux, les harengs, les anchois frétillaient d'aise au gré des marées, pas encore noires. Ils faisaient des bons gras, les gras de la marine. Cette époque, pleine de grâce et donc de graisse, est révolue. Dans les années 60, l'industrie fit passer le gras du côté obscur. Les 30 glorieuses salopes. Cochons incarcérés, nourris aux granulés, vaches rendues cannibales, poissons biberonnés au bout d'épuration. Tout ça ne produisait plus qu'un gras mauvais. En plus, on inventa, pas gêné, la graisse hydrogénée. Ah, la graisse hydrogénée, idée hydrogéniale du monsieur du marketing, grassement rétribué, qui avait constaté que bouffer des chips graissait les doigts et que le consommateur ne devait plus les essuyer sur sa cravate. Pour la sécurité des cravates, donc, on ajouta de l'hydrogène au gras afin qu'il ne fonde pas à la chaleur des doigts. L'embêtant, c'est qu'ils ne font pas non plus à la chaleur des artères. Elles se bouchent et bam, c'est l'infarctus, vous connaissez l'histoire. Bref, une fois de plus, on jeta le bébé avec l'eau du bain. Puisqu'il y a de mauvais gras, alors le gras est mauvais, faut plus en manger. Qu'est-ce qu'on peut être con? Parce que quand même, le gras, c'est la vie. Le gras, c'est pas que des bourrelets. La moelle de nos os, c'est du gras. Le gras nous constitue autant qu'il soit bon. Le cerveau, c'est du gras et du sucre, François Régis. Alors, je vous le demande, vaut-il mieux un cerveau constitué de graisse hydrogénée ou un cerveau frais de gras vivant? De gras issu d'une agriculture du vivant? Des huiles végétales venant de plantes en bonne santé? Des graisses animales offertes par des bêtes épanouies, élevées par des paysans optimistes, dans des paysages fertiles, à l'abri de la chimie du pétrole? Il faut retrouver le gras d'antan, François Régis, la Grèce antique. Et on va y arriver.
Très bien, monsieur le prophète, merci beaucoup. Et en cuisine.
Attention, en cuisine, on y arrive aujourd'hui. Le lapin turc à l'huile.
Oula.
Car le lapin turc à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que le lapin turc à l'eau, comme vous le savez. Les cuisses et le rable en tronçon, c'est tout ce qu'il vous faut du lapin. Le reste ira à la terrine. Pour qu'il soit turc comme il faut, la pistache est nécessaire. La pistache, c'est le truc qui fait turc. Faisons donc toaster deux poignées de pistache et, une fois refroidies, nous les réduirons en poudre pas trop fine. Mélangeons à cette verte chapelure un peu de poivre mignonnette et une pincée de cumin. Battons un œuf délayé d'un peu d'eau et trempons pan-pan, morceau par morceau, afin de le paner ensuite de pistache. C'est maintenant qu'il faut de l'huile, d'olive et fruitée au fond de la poêle, car nous allons gentiment colorer Benny, puis nous l'enfournerons pour le cuire à 150, une dizaine de minutes. Mélangeons les pistaches qui restent et les raisins secs hachés à un yaourt de brebis, persil, menthe, coriandre, etc. Une bonne rasade d'huile d'olive et zou. Voilà la fraîche sauce où plongera Pimpin, comme dans le Bosphore. Allez, nourrissez-vous les uns les autres et vivez grassement.
Bravo, bravo, bravo. Elle me fait très envie cette recette de lapinou, de lapinou à la daguinou, à la turque.
Très maigre en plus. C'est une recette très maigre. On prend pas un poil de gras.
Très bien. Et en parlant de Bosphore, etc. Nous, on est inondés sous les bonnes réponses à votre question, visiblement beaucoup trop facile. Est-ce qu'on avait une petite idée autour du plateau? On va pas demander à notre Français d'origine colombienne. Ce dessert fait partie des 13 desserts provençaux.
On a tous une paire aux pieds.
Pas mal. Ah, Eric l'avait pas.
Oui, non, si, c'est la pompe à huile.
Ah oui, très bien. Vous nous rappelez votre origine?
Ah non, moi je suis né à Limoges.
Ah, pardon. je suis vraiment désolé. Donc vous avez des excuses. La pompe à huile, absolument. À huile. Et c'est notre amie Maria Rivero, 130 impasse Treille à Lignan, dans le 34. Si je ne m'abuse, c'est l'Hérault, 34.
Oui.
Oui. Qui a gagné, logiquement,
Bravo.
Livre dédicacé. On va déguster la France. Et j'en profite pour dire que je serai d'ailleurs en dédicace mercredi à Dijon à 16h. J'ai oublié le nom de la librairie, mais en tout cas, je serai à Dijon à 16h. Une autre recette, Juan Albalès. Là,
j'ai fait quelque chose de très simple. C'est tout simplement une salade de quinoa.
Oui.
C'est une salade qui est efficace, qui est très nourrissante. Et avec un filet d'huile d'olive, vous êtes heureux. Pareil, j'ai accompagné ça avec un cédrat. Ça peut être fait avec un zeste de citron vert, un peu de fenouil, quelques petites oignons. Tout simplement, ça fait l'affaire d'un bon repas simple et généreux.
Et des fleurs de coriandre, non?
Et là, c'est la fleur de fenouil,
fleur
un
de
peu
fenouil,
jaune,
absolument.
Exactement.
Puisque celle de coriandre est blanche.
Est blanche, exactement. On est sur l'explosion du bouton de fenouil quand on croque dedans. Et une recette pour finir un petit peu...
Alors ça, on va en parler, évidemment, en c'est douceur, absolument incroyable, mais j'aimerais... J'aimerais... ça risque de s'écrouler parce qu'on est quand même dans des assiettes en carton. Voilà. Attention, c'est Eric Verdier qui va goûter ça. Mm-hmm. Il va nous en dire un mot, mais juste avant, Juan Alvarez... Dans quelles conditions utilisez-vous l'huile d'olive chez Yaya? Petite adresse dont on dit un mot, d'influence grecque. On est à Saint-Ouen,
exactement,
au nord de Paris.
L'huile d'olive nous accompagne du début à la fin du voyage.
Oui.
Car quand vous arrivez, il y a une bouteille d'huile d'olive qui est à table.
Oui.
Qui est faite pour tremper avec un pain qu'on fait maison. Mm-hmm. Tout est fait chez nous, même le pain. Même l'huile d'olive, bon, c'est pas directement à Yaya, mais on le fait en Grèce et on le fait nous.
D'accord.
Et il est avec le poulpe mariné, il sera aussi dans l'épita, dans le pain pita qu'on fait aussi
génial,
nous-mêmes.
Génial, il est fabuleux ce pain pita.
Exactement. Qu'on fait directement cuit sur une plaque chaude à la méditerranéenne. On va accompagner ça avec un beau tzatziki,
oui,
quelques oignons,
tzatziki,
une belle brochette d'agneau, un peu d'herbe et le tour est joué. On est heureux. Des frites à l'huile d'olive?
Non.
Si, on les fait, c'est comme ça qu'on les fait en Grèce, on finit avec un peu d'origan,
oui,
un tout petit peu de piment doux, fleur de sel fumée, et on voyage, on est heureux.
Oui,
on a un petit dessert qui nous accompagne.
Mais voilà, avec ce petit dessert.
La présentation est un peu particulière.
Éric Verdier est en train de le boulotter. On va dire que c'est une espèce de montagne un peu marron.
Voilà. Hein,
on ne va pas parler d'autre chose.
C'est-à-dire...
À votre avis, Éric?
Non, mais... Comme j'ai compris ce chef, mais c'est difficile de comprendre un chef. Bon, mais il a été même mettre donc de l'huile d'olive, même dans sa mousse au chocolat. Donc
c'est bien
c'est,
ça.
C'est un saint homme pour moi. Qu'est-ce que je vous dis? Des chefs comme ça qui mettent de l'huile d'olive partout, moi je les embrasse. Merci.
Et visiblement chimiquement c'est fait pour s'associer.
Oui.
Pourquoi?
D'autant plus que et sa dernière récolte particulièrement verte, extrêmement riche en polyphénol. Donc là on doit être à 400 mg. Donc c'est énorme. Et va porter ce côté aussi phénolique, ce côté aldéhyde phénol qu'il y a dans le chocolat. Hein.
Est-ce que c'est du cacao colombien?
On est au Santander, ouais. On est exactement en Colombie. C'est, et d'ailleurs, c'est japonaise qui travaille en France, qui gérait le salon du chocolat, Mayumi, qui nous livre ça. Ça s'appelle Cacao Hunters, apparemment, la nouvelle mec de chocolat.
Est-ce qu'il est cru?
Il est, ouais, elle travaille à cru, ouais.
Ouais.
Exactement.
La recette figure sur le site internet.
On a la recette, vous avez tout.
Franceinter.fr à la page, on va déguster pour une mousse au chocolat, l'huile d'olive ardente. Une question qui me chatouille un peu le fond de la gorge. Le rapport entre l'oléiculture et l'environnement. C'est vrai qu'on a un peu l'image quand on voit ces beaux arbres dans des grands vergers, sous les latitudes du sud. On se dit, oh bah tiens, c'est très naturel, etc. Est-ce qu'il existe une oléiculture intensive? Je crois même que c'est la majorité des cas.
Ouais, alors malheureusement, oui. Dieu merci. En tout cas, en France, non. Ça, c'est bien. Avec oui. nos 500 000 arbres comparés aux 500 millions espagnols, on est resté, nous, dans une tradition un petit peu plus familiale et d'identité terroir, ce qui est très bien. Bon, maintenant, oui, il n'y a plus qu'à faire progresser et un peu mieux structurer ça, mais c'est en cours. On commence à avoir de très bonnes choses en France.
Oui.
L'Italie, elle, et son relief... par nature déjà ne va pas véritablement vers l'intensif sauf dans la région des Pouilles.
Où est-ce qu'on va vers l'intensif?
Oh, c'est principalement l'Espagne.
Et donc ça veut dire quoi l'intensif? Ça veut dire que les sols sont assez morts? Ça veut dire des engrais?
C'est
des pesticides contre la mouche?
Alors oui, alors quand c'est contre la mouche, c'est pas très grave. C'est l'entretien phytosanitaire généralisé. Et
oui,
puis surtout, ce qui fait perdre énormément en qualité, parce que c'est évidemment l'aspersion qui gagne du terrain de plus en plus à cause des fortes sécheresses. C'est que l'olivier est un arbre solide, mais il a comme tout élément vivant besoin d'eau.
Donc l'aspersion, vous voulez parler d'irrigation?
Voilà, d'irrigation.
On irrigue... On est obligé d'irriguer les oliviers.
Voilà, donc on perd un petit peu, malheureusement, d'identité, de marque du terroir, parce que l'écosystème, le terroir, c'est un vaste mot, mais chez l'olivier, c'est véritablement une exposition, c'est des forces solaires, c'est un système hydrique particulier des sols, c'est un aliment naturel, et si on modifie cet écosystème-là, on perd évidemment qualité.
Bon, il y a aussi le label bio qui permet quand même d'être une garantie. Comme l'huile d'olive bio de Juan Alvarez, non? Vous faites un peu la grimace, Eric Verdier, malheureusement, on doit arrêter ce débat, mais...
Non, je ne fais pas la grimace, et c'est très bien que l'on aille vers ça et vers le bio, bon, si ce n'est que malheureusement, en oléiculture, le bio c'est très difficile à cause de la mouche de l'olive.
De la mouche de l'olive, absolument.
Qui pond 3 semaines avant, 1 mois avant le
Et
le,
c'est très compliqué de juguler, voilà, évidemment, ce parasite, ce phénomène. Eric Verdier, merci beaucoup, Olivier Enco, le spécialiste des grands crus de Méditerranée. année. Toutes les informations sur votre enseigne sur notre site franceinter.fr à la page On va déguster. Juan Albalès, citons donc votre cuvée d'huile d'olive. Vous nous en rappelez les références.
Exactement, huile d'olive donc du Péloponnèse. On est à une trentaine de kilomètres de Kalamata. Une huile d'olive verte, une huile d'olive de la troisième semaine de novembre de chez Kallios, les frères Chantios.
Grande qualité. Dans un instant, c'est question politique. Ali Badou reçoit Pierre Moscovici. Et la semaine prochaine, opération réhabilitation d'un légume racine qui a encore mauvaise réputation. Il y aura Arnaud Daguin pour nous en parler également. La betterave. Et notre ami Xavier Mathias, à dimanche prochain, si vous avez encore faim.